Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Benjamin Muller et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles épisode 6. Aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible et douloureux, la prématurité. Je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une jeune maman qui s'appelle Anne Malher. Ça faisait un petit moment que je suivais son compte Instagram où depuis des mois, elle racontait en dessin et avec énormément de talent l'histoire de sa fille Agathe née trop tôt. Agathe qui a dû se battre, et pas qu'un peu, pour rester avec nous. Anne Malher a décidé de tout raconter, en roman graphique, comme on dit. Alors ça va du choc de l'accouchement, aux angoisses des premières heures, des montagnes russes émotionnelles, on comprend la force qui a été la sienne, ainsi que celle de son mari, on voit l'importance de l'entourage qui a été exceptionnel, entourage qui les a toujours soutenus, et surtout, Anne raconte le courage et l'énergie de sa petite Agathe, si petite, mais déjà si forte, elle aussi. De toutes ces pages, Anne Malher en a tiré un livre absolument bouleversant. Aujourd'hui, les médecins disent que ce livre leur permet d'avoir un nouveau regard sur la prématurité, sur le lien parent-enfant notamment, mais pas que. Le livre s'appelle « Féminin Malher, histoire d'une naissance prématurée », édité par les éditions Pour Penser. Nous allons entendre maintenant le récit d'Anne Malher, que l'on commentera avec l'un des pédiatres qui a suivi la petite Agathe juste après. Je vous préviens tout de suite, c'est très fort. Bonjour Anne Malher.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'accepter de nous raconter votre histoire. Alors on va commencer par le commencement. On arrive le 17 février, donc vous êtes enceinte de 6 mois et demi, presque 7 mois. Ce jour-là, vous ne sentez plus votre bébé bouger. La nuit qui suit, c'est pareil, vous ne sentez pas votre bébé bouger. Alors vous allez réveiller le papa, direction la maternité, et là les choses vont aller assez vite.
Oui, là en fait, on a fait un monitoring, on a vu que effectivement le bébé ne bougeait pas assez, le tracé était trop plat. Et on a fait une écho avec le gynécologue du service, on est revenu faire un monito, le cœur battait correctement. Donc après, en fin de compte, ça allait très très vite. En quelques minutes, on m'a préparé pour une césarienne en urgence et c'était parti.
Pendant la grossesse, il n'y avait aucun signe de problème de quoi que ce soit?
Non, j'avais quelques contractions. Je me souviens que j'avais déjà été une fois à la maternité un ou deux mois avant, parce que j'avais des contractions non douloureuses, mais c'était plus que le soir, comme apparemment plein de femmes au final, donc non.
C'était pas une grossesse à risque?
Non, non, non.
Donc on vous annonce que vous allez aller en césarienne en urgence, imagine là tout le personnel médical se met en branle, et pour vous, dans votre tête, est-ce qu'on comprend ce qui se passe?
Non, en fait moi c'était juste l'angoisse de la césarienne, de l'opération, enfin j'étais en tout cas hyper phobique de l'hôpital. Je devais accoucher en maison de naissance sans péridurale, avec une sage-femme dans une maison pas du tout hôpital. Et là rien que ça, moi c'était crise de panique en fait. C'était ça.
Là, au moment où on vous dit césarienne d'urgence, crise de panique. Parce ouais, que la ouais. Peur de quoi? De l'aiguille? Parce que du coup, péridurale?
Non, même pas la peur de l'aiguille, non, je sais pas. Je peux pas l'expliquer. C'était ouais, l'angoisse. Je comprenais rien, en fait. C'était la panique totale. Et qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est hyper rapide, en plus, hyper violent. Donc, ouais, je sais, je pouvais même pas l'expliquer.
Votre fille va naître, césarienne. D'ailleurs, votre fille, on vous demande comment vous allez l'appeler. Et vous, septième mois, vous saviez pas encore. Le prénom, vous n'étiez pas décidé?
Le prénom, mais le papa n'était pas présent pour la césarienne en urgence parce qu'il n'avait pas le droit. Donc moi, quand on m'a dit comment elle s'appelle, on n'avait pas que ça à faire de discuter de son prénom ce matin-là. Quoi.
Et du coup, sur le petit collier de naissance, on a écrit féminin, parce que c'était une petite fille.
C'est ça, féminin, et avec mon nom de famille, Malher.
Donc césarienne, vous apprenez après que votre fille était en urgence fœtale. Quand elle sort, vous la voyez, je crois, deux secondes, et après l'infirmière vous l'enlève.
Oui, c'est ça, elle part très vite. La sage-femme était très gentille, elle a quand même pris le temps de me la montrer, de me dire un petit mot gentil. Et une fois que j'ai été recousue, qu'on m'a emmenée en salle de réveil, j'ai quand même pu la croiser. Elle était dans sa couveuse de transport pour partir à Strasbourg, en fait, pour un hôpital qui était plus adapté à la recevoir. Et là, j'ai pu un petit peu la voir, mais j'étais sous calmant et tout. Enfin, j'étais complètement pas là, quoi. Ouais.
Alors, je crois que c'est le lendemain matin où vous décidez quand même de lui trouver un prénom à cette petite. Vous hésitez entre Jade et Agathe. Et alors, vous allez vous y prendre de manière assez originale pour lui trouver le prénom. Un tirage au sort.
J'avoue, j'ai un peu la honte maintenant, mais en fait, pour nous, c'était tout à fait basique. En fait, on hésitait tellement. Moi, quand je l'ai vue ce jour-là dans la couveuse, enfin la veille, le jour de la naissance, je me suis dit, ah, elle avait le visage tout doux, tout. Je sais pas, je voyais Jade, je trouvais que c'était beaucoup plus zen et paisible. Et je le dis à mon copain, il me dit, ah non, moi, j'ai vu Agathe. Ah, punaise. Donc, il a fallu qu'on fasse un tirage au sort et qu'on aille la voir quand même avec un prénom, quoi. C'est Agathe qui a gagné.
Alors, dans la foulée, Agathe se débrouille plutôt bien. Au début, tout va bien, notamment pour respirer seule. Elle fait des progrès rapidement. Vous êtes en salle de réveil. Vous ne comprenez pas trop, je crois, ce qui vient de se passer. C'est encore, il y a un camion qui vous est passé dessus, quoi.
Ouais, je me souviens qu'en salle de réveil, j'étais plus du tout en crise de panique. En fait, j'ai tellement angoissée pendant la césarienne en urgence que j'ai vomi. Je crois que je crie à moitié, je pleurais. Enfin, c'était vraiment une scène d'horreur. L'infirmier m'a filé un calmant. Je voulais même pas le calmant tellement. En fait, je voulais vraiment juste pas être là et je leur demandais de m'endormir, chose que, jamais de la vie, il faut faire ça. De louper l'accouchement, c'est encore pire. Moi-même, je voulais accoucher en maison de naissance et pas couper le cordon trop vite. Enfin, toutes ces choses-là, je connais très bien. Mais sur le coup, avec l'angoisse, je voulais juste endormir moi et je veux pas être là, quoi. Donc, c'était un peu spécial, mais je pensais à rien. C'était très bizarre, quoi. J'étais pas du tout stressée. Enfin, j'avais tellement le médicament qui faisait effet.
Vous la voyez donc en couveuse. La petite Agathe, ça va à peu près dans la mesure du possible. Et un matin, au bout de quelques jours, là, ça va prendre une autre tournure puisque l'infirmière est assez distante avec vous le matin. Vous lui demandez comment ça va. Vous comprenez bien qu'il y a un problème même si elle vous répond pas. Là, le pédiatre vient vous voir et finit par vous dire que l'état d'Agathe s'est dégradé pendant la nuit. Je crois que tout son corps est en train de lâcher. En tout cas, c'est comme ça que vous le comprenez à ce moment-là.
Il faudrait que je relise tout le dossier médical, mais il y avait surtout les reins qui ne fonctionnaient plus. Et c'est vrai que quand ils l'ont sortie, elle faisait comme 2,3 kg pour un prématuré. C'est énorme. Et je pensais juste avoir un gros bébé. Et en fin de compte, elle était toute bouboule, comme un petit bébé joufflu qui est né à terme. En fin de compte, c'était juste des œdèmes. Elle était remplie d'eau parce que ses reins ne filtraient plus, elle éliminait plus. Et à côté de ça, il y avait d'autres petits soucis. Il y avait un canal du cœur qui n'était pas encore fermé. Il y avait... après, elle était léthargique, donc à la base, elle avait un bon éveil. Et le lendemain matin, quand on est venu, elle ouvrait quasiment plus les yeux. Elle réagissait plus, en fait. Ils ont fait des tests qui fait que ça n'allait plus, quoi.
Et donc là, vous demandez, mais attendez, est-ce qu'elle a des chances de s'en sortir quand même? Et on vous répond, c'est pas bon.
Ouais, on sait pas comment on a dit oui ou non, mais j'ai compris que c'était vraiment mal parti, quoi.
Alors, il faut parler à ce moment de l'importance de votre entourage. Votre famille, ils se sont tous relayés pour toujours être avec vous ou avec Baptiste, jamais vous laisser seul. Je crois en plus qu'ils avaient 1h, 1h30 de route pour venir vous voir. Donc dans ce moment-là, dans ce grand drame que vous traversez, vous n'êtes jamais seul. J'imagine à quel point c'est hyper important dans ces moments.
Ouais, c'est énorme. Enfin, sur le coup, c'était plus qu'important. Et même avec le recul, c'est vrai que je reçois des témoignages des fois de mamans qui me disent que elles n'ont pas eu du tout la famille à côté, soit parce qu'elles étaient éloignées, soit parce qu'ils n'ont pas tenu au courant la famille. Et c'est vrai que pour nous, c'était... heureusement qu'ils étaient là, parce qu'il y a des choses, enfin, même l'allaitement, moi, c'était logique pour moi d'allaiter, mais à ce moment-là, j'y pensais plus du tout, il y avait juste la survie. Donc même des choses comme ça, là, c'était mon père qui m'a fait, hop, vas-y, c'est important, il faut allaiter, le lait maternel, ça va l'aider pour son cerveau. Toutes ces petites choses-là, puis bon, positiver surtout, c'était grâce à eux aussi, quoi.
Dans le livre, vous racontez que dans cette période-là, le temps n'existe pas. En fait, chaque minute, chaque heure de gagner, c'est une petite victoire, surtout à ce moment-là. Vous racontez la mise en place de l'allaitement qui est galère, vous vous sentez nul, ça vous le racontez bien, on le comprend. Mais en fait, on passe, chaque jour est une petite victoire. Vous le vivez comme ça, en tout cas?
Les premiers jours, je pense que c'était ça, c'était déjà la survie. Faut qu'elle survive et surtout, faut pas qu'elle survive pour... parce que bon, le médecin nous avait fait comprendre que... ça pourrait ne pas être une vie, en fait, si elle survit, suivant les handicaps qu'il y aurait. Donc, moi, c'était, oui, survivre, mais survivre pour vivre aussi derrière, quoi. Et après, c'était... le temps était bizarre. C'était pas seulement que c'était une victoire chaque journée, c'était que une journée était comme une semaine. Et à la fois, c'était une minute. C'était vraiment... dans une journée, il y avait des fois 4 ou 5 ascenseurs émotionnels. C'était hyper intense, quoi.
Alors vous racontez parfaitement dans le livre, et les dessins l'illustrent très bien, les scopes. C'est-à-dire toutes ces machines qui font un bruit non-stop, qui mesurent le cœur, la respiration et autres, ce qu'on voit dans les films, ceux qui n'ont jamais été confrontés à ça, j'imagine qu'en vrai c'est terriblement anxiogène, mais pour vous c'est presque devenu une sorte de drogue. Il faut que vous nous racontiez.
Oui, 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 c'est vrai, et je crois que je ne suis pas la seule maman en plus à faire ça. Parce que, après nous c'était spécial parce qu'Agathe était léthargique et avait des soucis cérébraux. Ce qui fait qu'elle pleurait pas pour manger, elle se réveillait pas, comme un bébé, on va dire, classique. Et donc, moi, pour capter ces phases d'éveil, moi, j'étais là, ok, 170 de fréquence cardiaque. Oh là, elle est stressée, il faut qu'on la rassure. Ah, 120, t'as vu, le pot à pot, ça marche bien, elle est zen. En fait, je la décryptais, non pas par ses gestes, mais par le scope, même si après, on nous a vachement bien appris à décrypter tous les gestes aussi, quand elle a les bras écartés, c'est un inconfort, le hockey, c'est un stress, toutes ces choses-là. Quoi.
Mais donc vous êtes devenue un peu une experte en scope, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On va avancer un petit peu, bien sûr les étapes des IRM qui sont hyper importantes. Et là, le pédiatre vous annonce une terrible nouvelle, le ciel va vous tomber sur la tête, littéralement. Et il vous parle de lésions cérébrales diffuses qui sont essentielles pour la motricité. Je l'ai appris en lisant votre livre. Et surtout, il vous dit que c'est irréversible. Là, c'est dramatique. Vous vous préparez au mieux à de très lourds handicaps, au pire à encore pire. Et là encore, vous êtes très entouré, mais il faut que vous racontiez ce qui se passe une demi-heure après.
Oui, en fait, c'est la pédiatre qui ne pouvait pas encore nous donner les résultats de la neuropédiatre parce qu'elle n'était pas disponible, donc elle nous a annoncé ça comme ça.
Oui, avant d'avoir les résultats, elle vous dit tout ça. Donc,
elle a eu les résultats, mais je pense qu'elle n'était peut-être pas spécialisée dans ça, mais en tout cas, elle voyait déjà qu'il y avait comme des gros soucis. Et une demi-heure après, elle nous appelait pour nous dire c'était un peu flou en fait, on savait pas. Et c'est je crois que 10 jours après qu'on a vu vraiment la neuropédiatre en personne. Et ce qui était un peu délicat, c'est que, bah, effectivement, moi j'ai demandé s'il y avait moyen. Moi, je voulais toujours savoir si on pouvait régler quelque chose, enfin améliorer. Est-ce qu'il y avait un espoir? Et en fin de compte, on nous a dit que les lésions étaient irréversibles, ce qui est tout à fait vrai. Les lésions, enfin, c'est une partie du cerveau qui est morte à tout jamais. Mais après, on a appris, enfin, c'est ma belle-sœur, je me souviens, qui était sur Internet, sur des sites médicaux canadiens, qui a regardé qu'en fin de compte, il y avait la plasticité cérébrale. Alors ça, c'est toute notre vie maintenant. La plasticité cérébrale, c'est tout l'espoir qu'on peut mettre sur le cerveau et surtout les deux premières années, même si toute la vie, le cerveau, il peut se régénérer et enfin, surtout construire des nouvelles routes autour des zones mortes, quoi.
C'est-à-dire que ce pédiatre vous donne cette grande frayeur, ensuite vous êtes un peu rassuré, même si toujours dans le questionnement, etc. Oui, du jour au lendemain, ça ne va pas mieux. Mais effectivement, cette plasticité cérébrale, ça vous donne un espoir?
Ouais, c'est énorme parce que ça veut dire qu'on est un peu acteur du truc. C'est pas juste ça nous tombe dessus. C'est ok, il y a la plasticité cérébrale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider ça en fait, pour l'aider à reconstruire le cerveau? Et il y avait plein de choses en fait qu'on pouvait faire. Donc
comme quoi, vous en tant que parent?
Bah nous, après moi j'ai regardé plein de choses, mais on a mis beaucoup de musique classique parce que bah c'est prouvé. Il y avait le pot à pot, il y avait beaucoup lui parler, les massages aussi bébé qui rien que le toucher en fait donne des messages au cerveau. On a fait les mobiles Montessori, tout en fait on faisait tout pour vraiment qu'elle reste avec nous et que ça se reconstruise quoi.
Et vous y étiez 24 heures sur 24.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, on était tous les deux avec le papa, on était 24 heures sur 24 et la famille venait en plus. Et on faisait du pot à pot la première semaine, quasiment 24 heures sur 24. C'était un petit marathon, là.
Vous allez changer d'hôpital, vous allez vous rendre à l'hôpital de Colmar. Et alors là, petite victoire, ou même grande victoire à l'âge de 2 mois, Agathe fait 3 kilos.
Ouais, c'est énorme. Même si c'est vrai que pour nous, c'était pas le. Je sais que la plupart des parents de prématurés, c'est leur angoisse principale. Souvent, c'est le poids, parce que ben, forcément, quand le bébé fait 500, 600, 700 grammes, c'est très grave. Nous, elle faisait 2,2 kg, donc ce n'était pas le plus gros problème, même si c'était une victoire pour l'allaitement. Mais effectivement, ça voulait dire qu'on pouvait sortir et enfin peut-être commencer notre vie à la maison à 3, quoi.
Quand Agathe a 3 mois et demi, 4 mois, la grande victoire là aussi, elle va faire son premier sourire.
C'est vrai qu'elle l'a fait, je crois, effectivement en mi-mai et... C'était tard, enfin, quand je comparais, voilà, je sais qu'il ne faut pas, mais quand je comparais aux autres bébés, elle a fait le premier sourire assez tard. Et bah, ça, pour moi, c'était énorme parce que c'est pareil, c'est de nouveau une étape à valider. Mais après, elle n'a plus fait de sourire, je crois, jusqu'à juillet-août. Ouais. Ou plus de rire, mais c'était énorme.
J'imagine que dans cette période, on guette le moindre signe de handicap, le moindre signe de progrès aussi. Comment ne pas flipper tout le temps, en fait, dans ces moments-là où les médecins, clairement, vous disent maintenant, il faut observer.
C'est à moi que vous demandez ça. Je pense que vous êtes vraiment pas sur la bonne personne. Moi, je suis vraiment justement dans le mauvais truc. Maintenant moins, mais au départ, j'étais pas assez comme une maman. J'étais beaucoup trop à tout le temps de l'observer, analyser. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça elle va le faire? Est-ce que ça elle va pas le faire? Comment faire pour l'aider à faire ça? Et c'était un peu tout le temps le stress de valider toutes les étapes. Mais maintenant, enfin, ça va mieux aussi. Ben, je pense qu'il faut surtout travailler sur soi. Pour qu'ensuite le bébé évolue bien et qu'il se sente en sécurité avec nous et qu'il puisse avoir confiance en lui. Parce que si moi je lui dis tout le temps t'es handicapé ou tu vas être handicapé, pour moi elle va l'être. Donc je pense qu'il faut que nous on soit bien pour qu'elle le soit aussi après.
Quand vous êtes rentrée à la maison, les premières nuits, les premiers jours, les premières semaines, comment ça s'est passé?
Et je me souviens plus trop, mais le truc dont je me souviens le plus c'est qu'elle pleurait pas. Et ça c'était ma grosse angoisse à l'hôpital. Encore avant de sortir, quand elle avait 6 semaines, je demandais aux infirmières est-ce que c'est normal qu'elle pleure pas, même pour manger. Et je sais que ça existe de temps en temps, certains bébés qui se plaignent pas du tout, qui sont super cool, mais là c'était quand même pas bon signe au niveau du cerveau. Heureusement, Heureusement, elle a quand même fini par pleurer à la maison un peu plus tard. Je ne sais plus à quel âge, mais peut-être vers 2 mois. Elle a commencé à se manifester et après, ben, c'était les cris tout le temps. Comme tout le monde.
Et là, c'était hyper, hyper bon signe, quoi. Elle a quasiment 2 ans. Maintenant, Agathe, comment va-t-elle ?
Elle va super bien. On est très, très, très loin des premiers pronostics parce que, ben, en fait, elle comprend tout. Ça se passe super bien. Mais rien n'est gagné, en fait. Il y a tout le temps des étapes à valider. Là, elle a 20 mois, âge réel. Donc, les médecins comptent qu'elle a 18 mois. Et elle fait seulement du 4 pattes, même si ce n'est pas encore un retard. Elle dit quelques mots, mais voilà, on surveille de très, très près. Il y a des petits signes de probables séquelles, comme la main droite ou des petites choses un peu qui, voilà, qu'il faut surveiller. Mais elle pète la forme.
Et sur la motricité et sur l'éveil, les médecins ne sont pas inquiets ?
Non, pour l'instant, on a vraiment, on fait de la kiné toutes les semaines, 2 fois par semaine. On a plein de rendez-vous. Mais là, officiellement, pour l'instant, on aurait déjà pu être dans un centre CAMHS pour être justement accompagné plus fortement comme ce qui était prévu. Et ça, on y a échappé. Donc pour l'instant, c'est une super victoire, quoi.
Vous vous rendez compte à quel point votre histoire, elle va donner énormément de courage à beaucoup de parents qui vivent les choses que vous avez vécues au début. Même si pour vous, ça se passe très bien au final, ça donne quand même du courage. Vous vous en rendez compte ?
Non, je crois pas. Non, je reçois beaucoup de messages maintenant qui me font m'en rendre compte. Mais ouais, j'ai du mal à réaliser parce que c'est vrai que chaque histoire est tellement différente que, mais petit à petit, via les retours que j'ai, c'est vrai que ce que je me rends compte, c'est qu'en fin de compte, on ressent tous à peu près les mêmes sentiments de culpabilité, de peur, d'angoisse, de est-ce que je vais pas aimer ce bébé, comment je vais faire pour créer le lien après une césarienne, enfin, c'est le bazar dans la tête, quoi.
C'est le bazar dans la tête. Alors, le docteur Chauniot, qui est chef de service en néonatologie à l'hôpital de Colmar, où vous êtes passé, en parlant de votre histoire, en lisant votre livre et en suivant votre histoire à vous, Agathe et Baptiste, il dit qu'il a encore plus réalisé l'importance du lien pour aider ses parents prématurés. Il dit que votre investissement a été primordial et en gros, il dit que sans vous et sans tout ce que vous avez fait pour Agathe, Agathe n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Vous parlez de culpabilité, mais lui, il dit, mais attendez, elle a fait un boulot extraordinaire. Et en plus, lui, ça lui fait changer sa manière de faire la médecine.
Oui, c'est énorme, en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et de plus en plus de médecins, en fait, me contactent en me disant que ça va être un support pour eux, pour accompagner les parents et aussi pour en fait, eux-mêmes comprendre ce que nous, on ressent pour mieux nous accompagner. Parce que c'est sûr que tant qu'on l'a pas vécu, je pense qu'on, enfin, c'est pas possible de ressentir ce qui peut se passer, quoi. Donc pour moi, c'est énorme, c'est super. Je sais pas quoi dire de plus.
Si on pouvait donner peut-être un conseil à des parents qui vivraient actuellement la chose, parce que je sais que beaucoup vont écouter ce podcast, vous, ce que vous leur diriez, c'est de tout faire pour qu'il y ait un maximum ce lien là qu'on détaillait, faire toutes les petites choses que vous avez détaillées.
Ouais, moi je pense que déjà c'est la culpabilité qui est vraiment difficile, mais ça, enfin, je pense qu'on le vit tous, plus ou moins, dans un sens ou l'autre, le papa, la maman, peu importe. Et après, ben, faire ce qu'on peut au quotidien. Déjà, nous-mêmes, je pense, se faire aider parce que c'est. Moi, ça m'a beaucoup changé des personnes qui m'ont aidé à traverser ça. Et après, ben, faire tout ce qu'il faut pour que le bébé se développe au mieux. Et surtout, je pense. Le lien parent-enfant, en fait, qui fait que, pour moi, c'est ça, en fait, qui va créer le cerveau. C'est, oui, c'est comme elle va bien manger, oui, c'est comme d'autres choses, elle va bien être stimulée, on peut dire, même s'il ne faut pas dire ça, voilà, même si elle va bien voir des couleurs, des noirs et blancs, etc. Mais je pense que l'amour qu'on leur porte, et c'est ça qui va être essentiel, en fait. Et surtout, avoir confiance en eux et leur dire qu'ils sont capables. Parce que les mots et les pensées, c'est un impact énorme.
Ouais, vous lui avez beaucoup dit à Agathe qu'elle était forte.
Ouais, ouais, on lui dit tout. Enfin, nous, on est un peu fous, mais le moindre truc qu'elle fait, on est trop cool. Forcément, on est un peu trop, quoi, mais bon.
Forcément. Merci beaucoup, Anne Mahler, de nous avoir raconté tout ça. Donc, votre livre, qui est vraiment magnifique, parce qu'il raconte en détail cette histoire dont on vient de parler, et qui est illustré à merveille, parce qu'illustratrice, c'est votre métier. Il est illustré à l'aquarelle, ce qui nous plonge dans une atmosphère particulière, où chaque émotion que vous détaillez, je trouve, je ne suis pas spécialiste, mais on vit encore plus la chose. Donc, c'est vraiment très fort, je le dis très sincèrement, c'est un livre qui, moi, m'a bouleversé. Et je pense va bouleverser beaucoup de gens. Ce livre s'appelle Féminin Mahler. On l'a dit tout à l'heure, féminin, parce que quand Agathe est née, comme il n'y avait pas un prénom tout de suite, on lui a dit Féminin Mahler. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Histoire d'une naissance prématurée, c'est aux éditions Pourpenser. Si on veut l'acheter, rendez-vous sur le site de pourpenser.fr. Pourpenser.fr, et on met tous les liens sur nos différents réseaux sociaux de la Maison des Maternelles. Merci beaucoup, Anne.
Merci, Benjamin.
Voilà pour cette interview d'Anne Mahler, une histoire, la sienne, qui, je vous le disais tout à l'heure, a scotché beaucoup de monde, y compris les médecins qui ont accompagné la petite Agathe. Et bien justement, on va en parler avec l'un d'eux. Bonjour docteur Didier Chaugnot.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre néonatologue, chef du service de pédiatrie à l'hôpital de Colmar, et vous avez donc suivi Anne Mahler, que l'on vient d'entendre, et sa fille Agathe. Quand vous avez eu ce livre, ce roman graphique d'Anne entre les mains, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le sujet qui est votre spécialité, la prématurité ?
Alors, oui, on a appris énormément de choses. Et c'est pour ça qu'on a poussé Anne Mahler à faire ce livre, à le terminer et à le publier. Parce qu'on avait tout de suite senti, quand on avait vu les premiers dessins, les esquisses, les pages qu'elle avait esquissées pendant son séjour en néonatologie, on avait très vite senti tout ce que ça pouvait nous apporter à nous, en dehors du côté personnel et artistique de la chose.
Alors c'est vrai que ce livre est magnifique, ça c'est sûr, ce qui le rend encore plus puissant dans le message qu'il fait passer, mais au-delà du côté artistique, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, le médecin ?
Ce que ça nous apporte, c'est principalement la vision de l'autre côté du lit. Nous, on travaille énormément, comme Anne vous l'a expliqué, sur l'accueil et sur l'accompagnement des bébés et de leurs parents. Mais jusqu'à présent, il nous manquait le retour des parents. Ce retour nous est fait par certains parents de façon ponctuelle, nous est fait par les associations de parents, comme SOS Préma, qui est extrêmement actif. Mais on a rarement l'occasion d'avoir un retour global sur l'ensemble d'une aventure, l'ensemble du séjour d'un bébé, de sa naissance jusqu'à la sortie. Parce que très peu de parents prennent le temps de nous faire ce retour. Et parce que la plupart du temps, au moment de la sortie de l'enfant, quand on a des discussions sur l'ensemble du séjour, les parents n'ont qu'une envie, c'est de nous quitter, de rentrer à la maison. Ils nous font un compliment qu'on accueille avec plaisir, mais ça s'arrête là. Et là, on a vraiment l'ensemble de la vision du point de vue de la maman, du papa et du bébé, depuis même juste avant la naissance, jusqu'après la sortie. Et ça, c'est quelque chose d'unique pour nous. Et c'est un outil qu'on utilise maintenant au quotidien depuis la sortie du livre dans le service pour permettre à certains parents d'exprimer plus facilement leurs émotions et de relativiser leurs émotions, de les remettre dans un contexte normal.
De lire ce livre et d'avoir comme ça face à vous une sorte de concentré de l'histoire d'une naissance prématurité avec toutes les angoisses qui vont avec, ça vous a appris quelque chose sur l'importance du lien entre les équipes médicales et les parents ?
Oui, et puis ça nous a permis de mieux comprendre certaines réactions de parents. Un exemple, quand Anne raconte son retour dans notre hôpital, nous, quand les parents arrivent comme ça du CHU, on les installe dans leur chambre, on leur explique comment fonctionne le service, et puis très rapidement, nous avions l'habitude de les laisser avec le bébé pour qu'ils puissent se retrouver tous les trois en ayant l'impression de bien faire. Et en fait, on se rend compte à la lecture du livre que ce premier moment où on sort, où on ferme la porte, où on les laisse seuls, eh bien, elle l'a vécu comme un moment de, peut-être bref, mais un moment de solitude et d'abandon. Et voilà, tiens, premier enseignement pour notre pratique quotidienne, attention, on ne part pas comme ça. Nous pensions bien faire en laissant ses parents avec leur bébé dans un moment d'intimité, et en fait, on a pu créer un vide, on a pu créer une inquiétude. Donc maintenant, on fait un peu plus attention de laisser la porte entrouverte, de rester un peu plus longtemps, de solliciter l'accord des parents avant de sortir de la chambre lors de cette arrivée. Plein de petits détails comme celui-ci qui nous permettent, dans notre quête de mise en confiance et d'autonomisation des parents, par exemple avant le retour, de mieux respecter leurs inquiétudes, de mieux respecter leur sensibilité.
Je crois qu'une grande partie de votre travail aujourd'hui est justement tournée vers les parents et plus uniquement vers les bébés, comme ça pouvait être le cas il y a quelques temps. Vous diriez que les parents sont des acteurs à part entière dans le processus de soins de leur enfant ?
Les parents sont devenus des acteurs à part entière. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler de l'interview que vous avez faite de Clarisse Agbenienou, mais elle raconte très bien ce que moi j'ai vécu comme tout jeune médecin il y a 25-30 ans, où les services de néonatologie n'étaient pas ouverts aux parents. Ce que raconte Clarisse dans son interview, c'est que ses parents ont confié le bébé à la naissance à un service de réanimation néonatale et ils n'ont pu rencontrer leur bébé qu'au bout de quelques semaines. Et même quand les parents rentraient, ils étaient considérés comme des visiteurs dans un zoo, ils venaient voir le bébé, mais surtout on ne le touchait pas, on n'intervenait pas, on avait des nouvelles très parcimonieuses par l'équipe médicale jusqu'au jour de la sortie. Et c'était extrêmement dommageable. Puis petit à petit, les parents sont rentrés dans les unités. Puis un jour, ils ont eu le droit de toucher les bébés, et puis un jour, ils ont eu le droit de faire un peu plus. Et on s'est rendu compte depuis une dizaine d'années que c'était très insuffisant et que les parents ne devaient plus être considérés comme des visiteurs, mais comme des acteurs. Et ça, ça a été une révolution qui n'a pas été facile, parce que ça a dépossédé l'équipe médicale au sens large, hein, médecins, infirmières, auxiliaires de puériculture. Ça les a dépossédés, ça nous a dépossédés d'une partie de notre puissance qu'il a fallu transférer aux parents. Et ça a été un pas difficile à franchir. Mais maintenant qu'on a franchi ce pas, on est ravis et on est vraiment conscient du bienfait que ça représente, que les parents soient les premiers acteurs et que nous ne soyons que des supports.
Et donc maintenant, l'idéal, c'est de se retrouver avec des parents qui vont rester 24 heures sur 24 aux côtés de leur bébé ?
Je vais tempérer un tout petit peu ce... parce que la notion d'idéal, par nature, elle est difficile à atteindre. L'idéal, c'est d'avoir des parents qui soient disponibles et qui soient disponibles le plus possible en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs besoins, en fonction de leur tolérance, le plus possible disponible auprès de leur enfant. Et il est certain que plus les parents sont disponibles, plus, dans de bonnes conditions, une disponibilité qui leur permet à eux de s'exprimer et d'être présents sans être épuisés, sans être trop stressés, sans être mal à l'aise. Mais si on réussit à obtenir ces conditions, oui, l'idéal, ce serait d'avoir des parents 24 heures sur 24 auprès de leur bébé.
Et j'imagine que vous devez aussi voir des parents pour qui c'est trop dur de rester avec leur bébé. Ils n'y arrivent pas.
Voilà, c'est là où je mets un... C'est pas un bémol, mais je mets une... Comment dire? Si, on va dire un petit bémol à la notion d'idéal. L'idéal, voilà, on sait tous que c'est l'idéal, on a tous rêvé d'un idéal, mais par définition, quand les parents sont chez nous, l'idéal est déjà loin derrière nous. C'est ce que Anne raconte très bien dans son livre. Hein. Elle avait rêvé d'accoucher en maison de naissance, à terme, et puis de repartir, j'imagine, avec une petite musique douce et des fleurs qui tombent du ciel, avec son bébé dans un bras et son mari à l'autre. Bah, l'idéal, c'est fini. Et une fois qu'on est là... Il faut essayer de retrouver, de se rapprocher de cet idéal en mettant tous les atouts de notre côté. Et puis, voilà, certains parents n'ont pas spontanément la capacité d'accompagner leur bébé au quotidien. On a des parents qui ne peuvent pas rentrer dans un service hospitalier parce que leur vécu les ramène à des expériences peut-être traumatisantes, parce que la peur de la mort encore du bébé dans les premiers jours est trop difficile à supporter, parce qu'ils n'aiment pas l'hôpital, parce que pour tout un tas de raisons. Et là, à nous de lutter, de faire des efforts de pédagogie, d'encadrement, de réassurance, de cocooning, pour essayer de les ramener déjà auprès de leur bébé dans un premier temps, et puis petit à petit de les avoir à côté de nous le plus... pas forcément sur des temps très longs, mais sur des temps de qualité de plus en plus importantes. Et une fois qu'on a obtenu ça, le plaisir qu'ils vont trouver à ce moment-là dans cette présence va leur permettre de venir de plus en plus souvent et de plus en plus... et peut-être 24 heures sur 24. Mais on va se heurter, dans notre organisation actuelle de l'hôpital en France et donc beaucoup plus largement de la société, on va se heurter à d'autres contingences qui sont la gestion des autres enfants, des places ponctuelles en crèche ou à l'école ou pendant les vacances ou pendant les week-ends ou la distance, l'hébergement. Ben, ça, ce sont des choses qui sont encore loin d'être acquises, qui sont encore expérimentales un petit peu chez nous en France.
Est-ce que ça fait partie de votre boulot à vous, le médecin, le chef du service de pédiatrie, d'accompagner ces familles sur tous ces aspects que vous venez de détailler, notamment sur les questions les plus matérielles ?
Ça en fait de plus en plus partie. Il est probable que d'autres personnes que le médecin pourraient être, sinon aussi bien, peut-être mieux armées que nous pour faire cet accompagnement. On aurait probablement besoin, dans cette optique-là, d'avoir du personnel dédié à cette activité, des travailleurs sociaux, éducateurs, qui pourraient tout à fait effectuer cette tâche d'accompagnement et d'accueil des parents de façon peut-être plus continue que le médecin, dont la présence dans l'unité est moins permanente que celle des infirmières. Mais ça fait un petit peu partie de notre travail. Nous, on est là surtout pour valider cette présence, pour la renforcer, pour que les parents prennent conscience que c'est pas juste une idée en l'air, mais que médicalement, en dehors du plaisir que ça peut générer, médicalement, on est conscient que l'avenir du bébé, son avenir physique, intellectuel, son développement, etc., sont très fortement dépendants de la qualité et de la durée de la présence parentale.
Quand on a reçu Anne Mahler, j'ai échangé avec une jeune maman qui s'appelle Cindy. Elle ne voulait pas témoigner au micro, mais elle m'a envoyé un petit texte que je vais vous lire. Donc Cindy, elle explique, voilà, j'ai accouché il y a quelques temps d'un enfant né dit de prématurité tardive à 34 semaines. Alors son fils faisait 2,7 kg et par mesure de précaution, il a fait un jour de couveuse, 9 jours en tout en néonatologie. Aujourd'hui, il va très bien, il avait eu un peu de fièvre, hein, ce qui explique sans doute cela. Aujourd'hui, il va très bien, elle dit, il a 20 mois. Mais Cindy, elle m'explique qu'encore aujourd'hui, quand elle repense à cette naissance, elle fond en larmes, elle pleure, ça reste très douloureux pour elle, elle n'arrive pas à s'en remettre. Alors, à côté de l'histoire d'Anne Mahler, ça peut peut-être paraître à certains anecdotique, alors que ça ne l'est pas du tout. Comment on peut mieux aider ses parents qui vivent ça, une journée, deux, trois, en couveuse, et qui vont en garder un profond traumatisme ?
La première chose, je crois, c'est vraiment de soigner de façon très, très précise et très, très affirmée l'accueil du bébé à la naissance. Il y a encore quelques petites années, un bébé qui naissait comme le bébé dont vous venez nous parler, le bébé de Cindy à 34 semaines, il sortait à peine du ventre de sa maman, on l'emmenait dans la petite pièce à côté où on fait les premiers soins au bébé pour qu'il ait chaud, et on l'emmenait directement en néonatologie. D'autant plus que si c'est souvent des naissances qui se font par césarienne, le bloc opératoire n'est pas du tout équipé spontanément pour l'accueil d'un bébé prématuré, il y fait froid, il y a un encadrement technique qui est compliqué à gérer. Et donc ces bébés ne retournaient pas auprès de leur maman après ses premiers soins, montaient directement en néonatologie, où dans le meilleur des cas, le papa pouvait les suivre, et les mamans ne venaient voir le bébé que quelques heures, voire le lendemain de l'intervention. Et là, on a créé vraiment des dégâts terribles dans le lien entre la maman et le bébé. Donc déjà, si dans un premier temps, pour ces bébés qui, pour la plupart d'entre eux, vont bien à la naissance, si on peut rester avec le bébé auprès de sa mère, donc équiper, concevoir nos salles de naissance pour pouvoir faire les soins du bébé dans la salle de naissance auprès de sa mère, rester avec elle le temps nécessaire pour qu'elle puisse faire connaissance avec lui. Et puis après, quand on emmènera le bébé, quand on sortira de la salle de naissance pour aller vers les services, si on peut le faire en présence de la maman, si c'est elle qui peut amener le bébé, on a déjà fait des gros progrès. Et pour ça, il y a des projets en cours. On attend là actuellement dans notre hôpital un fauteuil de transfert. Donc c'est une espèce de fauteuil roulant, mais équipé pour qu'on puisse faire les transferts du bébé vers la néonatologie ou vers la maternité en peau à peau avec sa maman. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis, un deuxième volet extrêmement important, c'est le développement de ce qu'on appelle les unités kangourous. Vous avez déjà entendu parler. Malheureusement, mon hôpital n'en est pas équipé parce que d'un point de vue architectural, c'était pas faisable. Mais ce sont les chambres où en fait on peut d'emblée, dès la naissance du bébé, hospitaliser les bébés qui ont besoin de soins, qu'ils soient prématurés, tardifs, qu'ils soient des bébés un peu trop petits pour leur âge, ou des bébés infectés, ou des bébés voilà. Quel que soit le problème qui nécessite un soin particulier au bébé qui ne peut pas être fait en maternité, on peut accueillir d'emblée le bébé dans la chambre de sa maman et faire les soins à la mère et au bébé dans la même chambre. Et si l'hôpital où avait accouché cette maman avait été équipée d'unités kangourou, elle aurait pu très certainement garder son bébé, même si c'était en couveuse, même si c'était s'il y avait des soins particuliers, il aurait été avec elle. Et je pense que son vécu en aurait été très différent. C'est la séparation plus que la couveuse qui souvent est très très mal vécue par les parents, quoi. C'est l'inconnu.
Alors, docteur, maintenant un témoignage un peu plus joyeux, voire même carrément plus joyeux. Vous parliez tout à l'heure de Clarisse Akbenyenou, grande championne de judo. Aujourd'hui, elle est porte-parole de l'association SOS Préma. On l'a reçue il y a quelques semaines dans la maison des maternelles. Je vous propose qu'on écoute un extrait et qu'on en parle juste après.
Je suis née grande prématurée. C'est vrai que mes parents m'ont raconté un peu l'histoire tardivement. Bah, les Africains, ils ont un petit peu cette culture où il faut aller, lève-toi et marche. Donc ils m'ont dit, voilà, t'es née à 7 mois avec ton frère jumeau. Par contre, toi, t'as eu des complications. T'étais pas très bien formée, j'avais un problème au rein, donc ils m'ont opérée directement. Je respirais pas aussi. Et je suis tombée dans le coma après cette opération, quelques jours. Et ils ont demandé à mes parents s'ils devaient me débrancher. Mes parents, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est la seule enfant. Ben non, c'est des jumeaux, mais c'est la seule fille. Et un beau jour, je me suis réveillée.
Incroyable. Donc là, vous le racontez avec le sourire en disant qu'il y avait des petits problèmes de santé. C'était des gros problèmes. On imagine le choix pour vos parents quand on vous dit on va peut-être devoir la débrancher. Choix terrible. Le médecin qui s'occupe de vous déjà à l'époque dit à vos parents, je pense que c'est une battante, Clarisse.
déjà.
Ben, je pense qu'il avait vu quelque chose. Moi, je ne savais pas. Enfin, j'étais bébé. Et je pense qu'il a eu raison. Et quand on se bat comme ça pour vivre, je pense que derrière, on se bat pour tout ce qu'on... Enfin, quand on s'engage dans quelque chose, on se battra toute notre vie.
Votre maman, quand elle parle de cette période, elle dit qu'elle a encore la tête de l'image de vous avec une perfusion dans le crâne. C'est comme ça que vous étiez nourri. Tout ça pour dire qu'effectivement, vous revenez de loin. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'aujourd'hui, vous tentez de comprendre un petit peu ce qui reste de cette période chez vous. Et ça, je pense que ça peut parler à beaucoup de parents qui nous regardent. Cette force-là, ça vient de votre naissance, sans doute. Votre âge sur les tatamis aujourd'hui.
C'est ça. C'est vrai qu'en demandant, et je suis contente d'être marraine de cette association SOS Préma, parce qu'avec eux, j'ai pu découvrir plein de choses. Pourquoi j'ai été née comme ça ? Il y a plein de choses qui ont changé. Voilà, moi, j'ai été nourrie par la tête. Maintenant, il y a des sondes qui sont mises directement dans la bouche. Mais ma mère, elle ne pouvait pas me voir pendant des mois. Donc, elle n'a pas pu me toucher. Maintenant, ils ont fait le pot à pot. Ils peuvent rester à proximité, ce qui aide beaucoup. Et les couches, alors quand j'ai regardé une photo, la couche était énorme. Et là, maintenant, ils ont changé.
Pas du tout.
Et c'est vrai que maintenant, j'ai 26 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Et ils ont fait plein de choses. L'assistance, donc ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure. Il y a plein de choses qui ont changé. Je suis vraiment fière de cette association. On sait que c'est très difficile, mais il faut aussi penser... il y a des bébés aussi qui meurent. Et c'est aussi des champions. Il faut dire qu'eux aussi se sont battus. Il ne faut pas les oublier. Et pour les parents, c'est vraiment quelque chose de dur parce qu'ils changent leur vie. Il faut aller à l'hôpital. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi allongé le congé paternité des hommes. Voilà.
Bien sûr. Il y a à la fois la médecine qui a beaucoup progressé en 26 ans et l'accompagnement, ce qui est très important pour ces parents, se sentir moins seuls. Surtout que bien souvent, on se retrouve du jour au lendemain avec ce bébé qui vient de naître. On ne s'y attendait pas du tout à 7 mois. Et donc là, sur l'accompagnement, c'est très important. Et l'association SOS Préma vient notamment en aide à ces parents.
Exactement. Donc ils peuvent ils peuvent les appeler à n'importe quelle heure. Il y a une assistance et ils viennent en aide parce qu'ils ramènent. Il y a aussi un petit kit, où il y a un livre où ils peuvent essayer de lire, de comprendre.
Il y a un vrai soutien.
Il y a un vrai soutien, des médicaments parce que les enfants sont assez faibles. Et merci à toutes ces personnes qui œuvrent aussi parce qu'il y a aussi les médicaments. Il y a plein de partenaires à SOS Préma et je suis vraiment fière d'emmener cette association à bien et de dire que c'est pas parce qu'on est prématuré que derrière on peut pas être quelqu'un de grand.
Alors docteur Chauniaud, qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage de Clarisse Agmenienou, championne parmi les championnes, c'est un cas extrême bien sûr, mais j'imagine que ces témoignages ils vont donner du courage aux parents qui seraient aujourd'hui dans la situation des parents de Clarisse à l'époque. Est-ce que de par votre expérience, vous diriez que les grands prémas, ceux qui ont dû s'accrocher pour s'en sortir, ça donne des gens plus forts?
Oui, mais Clarisse Agmenienou, effectivement, est exceptionnelle à double titre. C'est effectivement une grande prématurité. C'est un bébé qui a eu une naissance très difficile, puisque sans rentrer dans les détails, elle parle d'une réanimation lourde, elle parle à un moment d'un coma, elle parle de... Voilà. Et elle termine championne du monde, multiple championne du monde de judo. Quand on dit que les grands prématurés sont plus forts, on peut l'entendre à plusieurs sens. On peut l'entendre à un prématuré plus fort psychologiquement. Et là, incontestablement, ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont un caractère très fort. À la fois parce qu'ils sont grands prématurés et à la fois parce qu'ils ont été élevés, éduqués, regardés comme des grands prématurés et comme des combattants par leurs parents qui ont continué à les éduquer dans ce sens-là. Donc là, je ne sais pas, moi, dire quelle est la part des choses entre la grande prématurité en elle-même, l'éducation, l'encadrement, le regard, surtout ça, le regard qu'ont porté sur eux leurs parents. Ce qui rend le cas de Clarisse Agmenienou exceptionnel, c'est qu'elle est également devenue une championne physique, quelqu'un de physiquement exceptionnel. Et là, c'est probablement plus compliqué à généraliser pour les grands prématurés. Malheureusement, un certain nombre de très grands prématurés vont avoir des séquelles plus ou moins visibles de leur prématurité, que ce soit en termes de motricité ou simplement en termes de souffle, en raison des séquelles pulmonaires. Et là, c'est plus compliqué de généraliser un potentiel physique. Mais moi, je me rappelle, d'avoir des personnages comme Clarisse Agmenienou, quand les parents me demandaient « Mais est-ce que vous pensez que mon enfant pourra faire du sport ?» Je leur parlais d'Olivier Merle, que vous n'avez peut-être pas connu, mais qui était un joueur de rugby assez exceptionnel, dont le surnom était l'homme et demi, ou la montagne, qui devait faire dans les 2 mètres, il chaussait du 56 ou 57, et il faisait 1,2 kg, 1,3 kg à la naissance. Voilà, donc Je leur citais toujours cet exemple pour dire que le poids de naissance et le terme de naissance ne doit pas être un frein, en tout cas, à viser haut, à viser très haut pour ces bébés, quoi.
Oui, je crois que Lilian Thuram aussi était un grand prématuré. Sa maman raconte qu'elle le faisait dormir dans une boîte à chaussures. Et on a vu ce que ça a donné.
Il est passé, nouvelle frappe. Extraordinaire frappe à l'entrée des 16m50.
Voilà, France-Croatie, que de bons souvenirs, mais on s'éloigne de notre sujet. Clarisse, elle m'a dit, quand je parlais avec elle hors antenne, après l'émission, je ne sais pas si on peut généraliser, mais elle dit que les petites filles prématurées sont plus fortes que les petits garçons. Est-ce que c'est vrai, ça?
Ouais, malheureusement, pour nous, les garçons, c'est vrai. C'est quelque chose d'extrêmement vexant pour les garçons, mais statistiquement, les petites filles ont un meilleur pronostic que les petits garçons en termes de survie, en termes de morbidité chez les grands prématurés. Tout à fait.
Voilà, les petites filles sont donc plus fortes. C'est un fait. Un grand merci au docteur Didier Chaugnot. Je le rappelle, pédiatre néonatologue, chef du service de pédiatrie à l'hôpital de Colmar. Ah oui, tiens, on a parlé de sportifs anciens prématurés. On aurait aussi pu citer Newton, Einstein, Darwin, Anna Pavlova ou encore... Ou encore Stevie Wonder, tous nés prématurés et qui ont plutôt eu une vie fructueuse après ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles, un podcast réalisé comme toujours par Alexandre Ferreira pour France Télévisions. Merci au docteur Chaugnot pour son temps. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet du jour, je vous renvoie vers le site de l'association SOS Préma, sosprema.com. Et également, bien sûr, un grand merci à Anne Maller d'avoir pris le temps de nous raconter son histoire. En podcast, c'est assez compliqué de vous montrer à quel point les dessins de son livre, de son roman graphique sont poignants, en plus de son propos, bien sûr, et ça vous l'avez compris. Je vous conseille donc fortement d'acheter ce livre. Vous aurez toutes les infos sur le site de son éditeur pour l'acheter, pourpenser.fr. Le livre s'appelle « Féminin Maller, histoire d'une naissance prématurée », pourpenser.fr. Je précise tout de suite, Anne Maller n'est pas une amie, c'est pas une copine, il n'y a pas de copinage là-dessus, mais je suis sûr que vous l'aurez compris. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur toutes les plateformes possibles, à mettre des notes, des commentaires, etc. Vous connaissez l'histoire, Apple Podcasts, Cybelle, Castbox ou encore Podcast Addict. On se retrouve sur Instagram si vous souhaitez me suggérer de nouveaux thèmes de podcast. Il y en a deux qui reviennent beaucoup dans vos messages. La césarienne, vous êtes nombreuses à me demander d'en parler, et dans un autre registre, les frères et sœurs qui passent leur temps à s'engueuler. On va donc bientôt faire ces sujets en podcast, mais si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde, à bientôt j'espère.